Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Le Monde aujourd'hui. Bienvenue dans cette édition du jeudi 26 mai 2022. Avec vous Eric Manelakiza. Voici d'abord le sommaire. Au Burkina, le gouvernement reconnaît dans un nouveau bilan la mort d'au moins 50 personnes dans l'est du pays.
C'est plus que ça, hein. Quand on dit 50 personnes, c'est plus que 50 personnes.
Témoignage d'un habitant à suivre dans cette édition. Détresse et consternation au Sénégal après la mort de 11 bébés dans l'incendie à l'hôpital d'Otivaouane. Le Nigeria choisit ses candidats 9 mois avant la présidentielle. En Tunisie, le président Kais Saied officialise la date du 25 juillet pour son référendum. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, dénonce la coercition croissante de la Chine sur Taïwan. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Au Burkina Faso, le gouvernement a confirmé la mort d'au moins 50 civils dans l'est du pays. Ils ont été tués par des hommes armés non identifiés alors qu'ils fuyaient leur village d'Omadjouari. Mais des habitants de cette localité, joints par VOA Afrique, donnent un bilan plus lourd. Les précisions de Bagassikoura.
Le gouverneur de la région de l'Est, Burkinabé, dans un communiqué explique que des habitants de Madjouari, sous la menace terroriste qui tentaient de rejoindre Nadiagou dans la commune de Pama, ont été pris pour cible aux environs du pont Sengou par des individus armés non identifiés. Le gouverneur souligne que ce bilan provisoire fait état d'une cinquantaine de personnes tuées. Des habitants de la localité que VOA Afrique a réussi à joindre parlent ce soir d'un bilan plus lourd. L'attaque a eu lieu dans une zone de l'Est contrôlée par les groupes armés depuis plusieurs années. Cette nouvelle tuerie fait suite aux révélations hier qu'au moins 63 autres civils avaient été tués dans des attaques qui ont visé dimanche 2 villages du nord du pays. Des témoins affirment à VOA Afrique que des forces de sécurité burkinabé qui étaient à une 20 kilomètres ne sont pas intervenues. Le bilan de ces nouvelles exécutions à l'Est est provisoire, les autorités n'ayant pas encore pu intervenir dans la zone pour faire un décompte complet. Cet événement fait suite à d'autres enregistrés dans la commune de Madjouari. Le 24 janvier, les militaires avaient avancé l'argument de l'insécurité pour s'emparer du pouvoir à Ouagadougou. Depuis, la situation sécuritaire ne s'est guère améliorée au Burkina Faso.
Nous y reviendrons, Bagassi, dans la seconde partie de cette édition. Tragédie au Sénégal, où 11 nouveaux-nés ont péri hier dans un incendie dans un hôpital à Tivaouane, dans l'ouest du pays. Ce drame a causé beaucoup d'émotions dans le pays. Le point avec Claire Moiré-Gibourg.
La nouvelle a été confirmée par le président Macky Sall sur Twitter. Je viens d'apprendre avec douleur et consternation le décès de 11 nouveau-nés dans l'incendie survenu au service de néonatologie de l'hôpital public de Tivaouane, a-t-il écrit, exprimant sa profonde compassion pour les familles. Le maire de Tivaouane, Demba Diop, a expliqué que l'incendie avait été causé par un court-circuit et que le feu s'était propagé très vite. 3 bébés ont été sauvés, a précisé M. Diop, également député à l'Assemblée nationale et plus connu sous le nom de Diopsy. L'hôpital avait été inauguré récemment, selon la presse locale. Début avril, un autre drame survenu dans un autre hôpital public avait déjà bouleversé le Sénégal. 4 nouveau-nés avaient péri le 25 avril 2021 dans un incendie dans la ville sénégalaise de Linguère, dans le nord du pays. Le maire de Linguère, alors ministre de l'Intérieur, Aline Gouy Ndiaye, avait évoqué un dysfonctionnement électrique d'une unité de climatisation dans la maternité où se trouvaient 6 bébés.
Un Soudanais a été tué, 2 agents des forces de sécurité nigériennes blessés mercredi lors d'une violente manifestation des demandeurs d'asile dans le centre de l'ONU à Agadez, la grande ville du nord du Niger. Au Nigeria, les deux plus grands partis du pays sont en ordre de bataille pour désigner leur candidat à la présidentielle de 2023. Le choix du candidat à la présidence de l'APC et du PDP fera probablement émerger un favori pour succéder au président Muhammadu Buhari, qui a annoncé quitter le pouvoir après 8 ans d'exercice. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Le destin des candidats du Congrès des progressistes, APC, sera connu à partir de ce week-end à Abuja au cours d'une primaire organisée par le parti au pouvoir. Dans cette formation, Bola Tinubu, ancien gouverneur de Lagos, et Yemi Osinbajo, actuel vice-président, font figure de favoris. Mais ils seront au total 25 prétendants à la candidature pour le compte du parti présidentiel, où tous les regards seront tournés vers le président Buhari, pour savoir qui il soutiendra. Le principal candidat de l'opposition sera également connu dans les prochains jours, alors que le Parti démocrate populaire, PDP, organise à partir de vendredi sa primaire à Abuja. Au PDP, l'éternel candidat et ancien vice-président Atiku Abubakar en est déjà à sa 6e tentative de briguer la présidence. Face à lui, deux rivaux de premier plan, Bukola Saraki, ancien président du Sénat, et Aminu Tambuwal, actuel gouverneur de l'État de Sokoto. La présidentielle nigériane est prévue le 25 février 2023.
Kinshasa accuse le Rwanda de complicité avec les rebelles du M23, tandis que la tension monte à Goma, dans l'est de la RDC, en plein affrontement entre l'armée congolaise et le groupe armé qui s'est rapproché du chef-lieu de la province du Nord Kivu. Le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula, n'a pas mâché ses mots. Je cite, le Rwanda, je le dis sans hésitation, a attaqué le camp de Rumangabo, importante base des forces armées de RDC, à une quarantaine de kilomètres au nord de Goma. Selon des sources locales, des combats se sont poursuivis jeudi matin aux abords de ce camp, qui abrite le quartier général du parc national des Virunga, célèbre pour ses gorilles de montagne. Le président tunisien Kais Saied a officialisé la date du 25 juillet pour la tenue d'un référendum sur la Constitution, malgré les critiques dénonçant un processus bâclé. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Cette date du 25 juillet a été officialisée dans un décret présidentiel portant convocation des électeurs pour un référendum sur un projet de nouvelle constitution. Après des mois de blocage politique, le président Kais Saied a limogé le premier ministre le 25 juillet 2021 et suspendu le Parlement avant de le dissoudre fin mars. Une consultation populaire en ligne organisée entre janvier et mars a plébiscité l'instauration d'un régime présidentiel voulu par le président Saïd à la place du système hybride actuel, source de conflits récurrents entre l'exécutif et le législatif. Il a nommé un juriste proche de lui, Sadok Belaïd, à la tête d'une commission chargée d'élaborer la nouvelle constitution à travers un dialogue national. Conviée à ce dialogue, la puissante centrale syndicale UGTT refuse d'y participer. Pour elle, le dialogue, dans son format proposé par M. Saïd, vise à cautionner des conclusions décidées unilatéralement à l'avance et à les faire passer par la force. Le président tunisien a aussi publié un second décret stipulant que le texte de la nouvelle constitution serait publié au plus tard le 30 juillet avant d'être soumis au référendum. Les législatives, elles, sont prévues pour le 17 décembre prochain.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ne cherchent pas à exclure la Chine de l'économie mondiale, mais veulent que Pékin adhère aux règles internationales. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi le secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans un discours consacré à la politique américaine sur la Chine et qui intervient 3 jours après le retour du président Joe Biden d'Asie. Le point avec Abdulrahman Dia.
Dans son discours, le chef de la diplomatie américaine appelle à une concurrence vigoureuse avec la Chine pour préserver l'ordre mondial existant, mais a tenu à rassurer que les États-Unis ne recherchent pas une nouvelle guerre froide. Anthony Blinken a aussi déclaré que Pékin posait le défi à long terme le plus sérieux pour l'ordre international, malgré des mois de concentration américaine sur l'invasion russe de l'Ukraine. La Chine est le seul pays ayant à la fois l'intention de remodeler l'ordre international et, de plus en plus, la puissance économique, diplomatique, militaire et technologique pour le faire, a déclaré Blinken. Pour le patron du département d'État, la vision de Pékin nous éloignerait des valeurs universelles qui ont soutenu tant de progrès dans le monde au cours des 75 dernières années. reporté une fois après que Blinken a été testé positif au COVID-19 plus tôt en mai. Son discours à l'université George Washington de la capitale américaine fait suite à un mois de diplomatie américaine intensive axée sur la région Indo-Pacifique, y compris le retour de Biden cette semaine de son premier voyage en tant que président dans la région. Concernant Taïwan, M. Blinken a reconnu que Washington entretient une forte relation non officielle avec l'île, y compris la fourniture d'armes, mais a répété que les États-Unis ne reconnaissaient que Pékin.
Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée Rosine Mounezé.
Le premier ministre iranien a appelé jeudi l'administration de Joe Biden à lever les sanctions économiques contre son pays et à abandonner la politique de pression maximale de son prédécesseur, Donald Trump, afin de raviver les chances d'un accord sur le nucléaire iranien. C'était lors du Forum économique mondial à Davos, en Suisse. Le Qatar s'attend à recevoir jusqu'à 200 000 voyageurs par avion chaque jour pendant la Coupe du monde de football, les compagnies aériennes du Golfe organisant des dizaines de navettes quotidiennes, a déclaré jeudi un haut responsable qatari. Elles organiseront plus de 160 allers-retours sur la journée à partir du 20 novembre, a indiqué Akbar Al-Bakr, président de l'autorité du tourisme du Qatar. Le produit intérieur brut des États-Unis s'est au premier trimestre contracté un peu plus que ce qui avait été initialement annoncé, reculant de 1,5% en rythme annualisé, alors que les craintes augmentent de voir une récession. La deuxième estimation publiée jeudi par le département du commerce est supérieure de 0,1 point. Ce coup d'arrêt était inattendu dans un contexte de forte inflation exacerbée par la guerre en Ukraine et des problèmes persistants sur les chaînes d'approvisionnement.
Nous passons directement à votre page d'espoir avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
On commence avec les finalistes de la saison de la Basketball Africa League qui sont connus.
Il s'agit de Petro de Luanda et l'US Monastir de la Tunisie. Les deux équipes se sont qualifiées pour la finale à l'issue de palpitantes demi-finales disputées à la Kigali Arena au Rwanda. Dans le choc tant attendu, le remake de la finale de l'année dernière entre l'US Monastir de la Tunisie et le Zamalek d'Égypte, les Tunisiens ont pris leur revanche en battant le champion en titre 88-81 pour s'assurer une deuxième finale de suite dans cette Basketball Africa League. Julius Junior Coles, joueur de l'US Monastir.
Ça fait du bien. Je n'étais pas avec l'équipe l'an dernier, mais je comprends les miens qui ont perdu en finale. Et c'est bien d'avoir cette revanche et nous espérons gagner. Nous sommes venus ici pour gagner le championnat et nous sentir comme n'importe qui pourrait l'être. C'est évidemment une grande équipe. Nous croyons en nous.
Julius Junior Coles, joueur de l'US Monastir. Ce samedi 28 mai, en finale, l'US Monastir fera face à Petro de Luanda. Les Angolais ont arraché leur ticket pour la finale en disposant de FAP du Cameroun, 88-74. Dans la première demi-finale, pour Yannick Moreira de Petro, ce sera une finale difficile, mais ils se donneront les moyens de la remporter. Écoutons-le.
Bien sûr, ce sera difficile. Chaque fois que vous irez en finale, ce ne sera pas facile. Quand les équipes vont en finale, elles essayent de gagner. Donc, peu importe, celui qui va en finale, jouer contre nous sera un jeu d'adultes qui se battront de la première minute à la dernière minute. Donc, tout le monde doit travailler dur. Celui qui est chanceux pendant 40 minutes gagnera le match.
Yannick Moreira, joueur du Petro de Luanda.
Basketball toujours, mais cette fois-ci ici aux États-Unis en NBA, Boston prend une option pour la finale.
Les Celtics, dissuasifs en défense et à l'efficacité offensive retrouvée en seconde période, se sont imposés 93-80 chez le Heat. Boston, qui mène désormais 3-2 dans cette série, aura l'occasion de finir le travail demain vendredi en son TD Garden. Dos au mur, Miami va devoir réaliser un exploit dans le Massachusetts pour éviter une élimination qui aurait un goût de revanche pour Boston, éliminé à ce stade par ce même adversaire il y a 2 ans. Si cela se produit, les Celtics ne seront alors qu'à 4 victoires d'un 18e sacre record, eux qui partagent le trône des équipes les plus titrées avec les Lakers.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Manirakiza. Place au dossier du jour. Au Burkina, le gouvernement confirme ce soir qu'au moins 50 civils qui fuyaient leur village dans l'est du pays ont été interceptés et tués par des hommes armés non identifiés. Ces villageois fuyaient une région largement contrôlée par les groupes armés et la vie y est devenue très difficile selon des habitants de la région joints par VOA Afrique. Bagassikoura.
Dans son communiqué, le gouverneur de la région de l'Est, le colonel Hubert Yameogo, explique que les villageois, face à la menace de groupes armés, fuyaient Madjouari, une commune de l'Est du pays proche de la frontière béninoise. Selon le gouverneur, ils ont été pris pour cible aux environs du pont Senghou par des individus armés non identifiés, ce que confirme Onadia, habitant de la région à VOA Afrique.
C'est une partie de la population qui s'est avant-hier qui a quitté la commune pour rejoindre Nadiabou. Il y a un fleuve qui sépare les deux villages. Donc c'est à ce niveau qu'il y a eu que les groupes sont interceptés. Voilà. Et ils ont séparé des hommes des femmes. Les femmes à part, les hommes aussi à part.
Agima Tombiano est l'ancien maire de Madjouari. Il explique que ce sont les autorités militaires qui ont laissé ces populations partir sans s'être assuré que la route était sûre.
On devait pas dire à la population de quitter, on devait faire le ratissage pour au moins être sûr que la route est propre pour dire à cette population de prendre la route. Si on dit à la population de prendre la route alors que il y a eu deux attaques dans le côté ennemi, il y a eu ils sont sur leur mer et puis côté aussi ils sont sur leur mer. Ça va causer un grand scandale parce que la population va subir le pire.
Le gouverneur de la région de l'Est, le colonel Hubert Yameogo, dans son communiqué, établit un bilan de 50 morts. Eskadima Tombiano, l'ex-maire de Madjouari, qui dit avoir parlé à des rescapés, confirme ce bilan.
C'est plus que ça. Hein. Quand on dit 50 personnes, c'est plus que 50 personnes.
Pourquoi vous dites ça?
Parce que nous, on ne sait pas la population qui est là-bas. Combien de personnes qui restent maintenant? On ne sait plus. Hein.
La commune de Madjouari est située dans une zone largement sous le contrôle de groupes armés depuis plusieurs années. Ce mois de mai, deux attaques y ont coûté la vie à au moins 28 personnes, dont 11 militaires. Selon l'ex-maire, avant ce dernier incident, quelques 600 personnes vivaient toujours à Madjouari. Mais la situation sécuritaire y est très précaire. Onadia a fui Madjouari il y a plusieurs mois.
Présentement, à Madjouari, il est difficile de vivre. Il est difficile de vivre. Depuis plus d'un mois, la population manque de tout. Il n'y a plus de vivre. Ça veut dire qu'il fut un moment où la population, c'est avec les graines de soja que la population se nourrissait. Ces graines de soja sont finies. Et maintenant, ils sont allés à la recherche des mangues. Donc, c'était la période des mangues. Et ça aussi, ces bergers-là se trouvaient dans un autre village qu'on appelait Namouri. Voilà. C'est là-bas qu'il y a eu l'accouchage et il y a eu 17 morts. Voilà, tous des civils. Voilà. C'est pour dire que si l'armée accepte présentement pour accompagner quelqu'un hors du village, pour aller cueillir des mangues, il faut savoir que la situation est vraiment chaotique au niveau de Tambara.
Les gens vivent de mangue et de soja parce que la production agricole n'est plus possible depuis quelques années.
Voilà, ils ne produisent plus.
En quelques jours, plus d'une centaine de civils ont perdu la vie dans des attaques au Burkina. Dimanche, deux attaques contre deux villages au nord du pays ont fait au moins 63 morts, selon des témoins joints par VOA Afrique. À Ouagadougou, les militaires qui ont renversé en janvier le président Kabore se font discrets sur cette situation sécuritaire, chaque jour beaucoup plus inquiétante.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
On reparle du gazoduc Nigeria-Maroc. Les partenaires africains sont en ce moment en pleine recherche et de financement. Et le projet va pouvoir compter sur l'OPEP Fund, le fonds de l'OPEP pour le développement international, a débloqué 14,3 millions d'euros pour avancer sur la phase 2 des études préliminaires. De façon plus globale, ce chantier doit permettre à terme d'offrir une alternative au gaz russe. Et Robin Dussen.
Un coût total estimé à 25 milliards de dollars, 5 600 km de long et 13 pays d'Afrique de l'Ouest traversés pour rejoindre l'Europe. Le chantier du gazoduc Nigeria-Maroc s'annonce tout simplement pharaonique. Il y a 6 ans, le roi du Maroc, Mohamed VI, et le président nigérian, Muhammadu Buhari, sont tombés d'accord sur un méga projet de transport de gaz le long de la côte atlantique. Un projet qui n'est finalement que l'extension d'un premier pipeline reliant le sud du Nigeria au Bénin, au Ghana et au Togo.
Le Nigeria est un pays important en Afrique pour ses réserves de pétrole et de gaz. Il y a beaucoup de gaz, en fait, et qui est très peu utilisé localement.
Jean-Pierre Favennec est consultant et spécialiste de l'énergie.
Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, le roi du Maroc, qui a beaucoup d'acquaintances en Afrique de l'Ouest, il est allé au Nigeria.
En 2016, à Abuja, la capitale.
Et donc, ils ont fait un espèce de MOU, Memorandum of Understatement, destiné à donc prévoir la construction de ce gazoduc. Alors, tout n'est pas complètement stupide dans ce gazoduc, dans la mesure où il y a du gaz au Nigeria, et il y a du gaz aussi, par exemple, au Ghana. Ensuite, il va passer au large du Sénégal et de la Mauritanie, où il y a beaucoup de gaz potentiellement, et tout ça permettrait, éventuellement, en prolongeant vers l'Europe, qui va avoir besoin de gaz. Maintenant, tout ça, c'est quand même très cher. Deuxièmement, ça ne va pas se faire du jour au lendemain.
De là à en faire profiter l'Europe, rien n'est moins sûr pour Philippe Charlez, expert en questions énergétiques à l'Institut Sapiens. Le Nigeria ne fournit à l'heure actuelle que de faibles quantités de gaz à l'échelle mondiale.
Ce qui m'étonne, c'est surtout comment on va le remplir, ce pipe. Et donc, on a l'impression que le but, c'est surtout d'électrifier les quelques pays qui sont quand même des pays en voie de développement, donc qui ne sont pas hyper gourmands en énergie, que le pipe traverserait. Donc ça veut dire que c'est un projet afro-africain.
La solution Nigeria pour approvisionner l'Europe en gaz divise au sein des experts. Jean-Pierre Favennec y voit une piste parmi d'autres à explorer. Son confrère Philippe Charlez est lui plus catégorique.
Je ne vois pas du tout en quoi ce projet pourrait réduire la dépendance, sauf à découvrir des quantités mirifiques de gaz au Nigeria, qui, ça je vous le confirme, reste quand même un producteur de gaz, sinon petit, au moins très très moyen. Et le Nigeria déjà exporte 28 sur ses 50 et consomme le reste. Donc ça sous-entend qu'il y a des développements qui vont être faits.
Reste maintenant à savoir si ce pipeline ouest-africain verra le jour. Pensé dans les années 80, le gazoduc transsaharien devait relier le Nigeria à l'Algérie et n'a toujours pas été construit. Le chantier du NMGP, le gazoduc Nigeria-Maroc, pourrait lui durer 25 ans. Robin Dussen à Tanger pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la première visite présidentielle de Joe Biden en Asie. L'influence grandissante de la Chine reste une priorité pour Washington. Joe Biden a tenté de rallier ses alliés autour des enjeux géopolitiques et économiques que constitue l'expansion de la Chine. Le président parle d'une compétition mondiale entre les démocraties et les autocraties, mais la volonté de contrer l'influence de la Chine sur les plans militaires, économiques et technologiques dans la région est évidente. Quels enjeux pour la visite de Joe Biden en Asie? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Les législateurs américains votent ce jeudi pour imposer des vérifications d'antécédents plus strictes sur les ventes d'armes à feu après une nouvelle fusillade de masse dans une école primaire d'Uvalde au Texas mardi, dans laquelle 19 enfants et 2 enseignantes ont été tués. Les récentes tueries dans le pays ont relancé le débat sur le contrôle des armes à feu, rapporte la correspondante de la VOA au Congrès, Catherine Gibson. Le récit est de Nathalie Barsch.
La fusillade meurtrière dans l'école primaire d'Uvalde a rouvert le débat national sur la réglementation des armes à feu. Le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, a été interpellé par son adversaire démocrate, Beto O'Rourke, qui affirme que son laxisme concernant les lois sur les armes à feu a conduit à la tragédie. Monsieur Abbott a dit que le tireur de 18 ans, Salvador Ramos, n'avait montré aucun signe avant-coureur avant la fusillade et il a appelé à un plus grand soutien aux services de santé mentale au lieu de lois plus strictes sur les armes à feu.
Je déteste dire ça, mais il y a plus de gens abattus chaque week-end à Chicago
qu'il y en a dans les écoles du Texas. Et nous devons réaliser que les gens qui se disent, eh bien, peut-être que si nous appliquons simplement des lois plus strictes sur les armes à feu, ça va résoudre cela. Les situations à Chicago, Los Angeles et New York démontrent le contraire.
Le président américain Joe Biden a appelé le Congrès contrôlé par les démocrates à adopter de nouvelles réglementations.
Quand, au nom de Dieu, ferons-nous ce qui doit être fait pour diminuer considérablement l'ampleur du carnage, si ce n'est de pouvoir l'arrêter complètement?
Les démocrates assurent vouloir agir rapidement pour adopter de nouvelles réglementations. Chuck Schumer, chef de la majorité au Sénat.
L'épidémie d'armes à feu aux États-Unis n'est égalée par aucun de nos pères dans le monde. Aucun Américain n'est à l'abri et le peuple américain en a vraiment marre.
Ils ont noté que de tels efforts ont été bloqués dans le passé. Le sénateur démocrate Chris Murphy.
C'est un sujet de discussion pour l'industrie des armes à feu. Elle veut arrêter toute discussion sur la modification de loi après ces fusillades de masse parce qu'elle sait que c'est le moment où le public exige un changement de politique.
Les républicains ont également reconnu l'ampleur du drame. Mitch McConnell, chef de la minorité au Sénat.
Il est littéralement écœurant de penser à ces jeunes vies innocentes qui ont été volées par cette brutalité inutile et insensée.
Mais ils ont mis en garde contre la limitation du droit constitutionnel des Américains à porter des armes. Le Congrès a toujours échoué à adopter de nouvelles législations sur le contrôle des armes. Matthew Valentine, professeur à l'Université du Texas.
The assumption is that if any policy that advocates for any kind of reform is...
L'hypothèse est que toute politique qui préconise des réformes est un prélude à la confiscation et à un changement de loi radical dans le genre du modèle néo-zélandais. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas ce qui est proposé. De nombreuses mesures législatives susceptibles de créer des obstacles pour les personnes qui tentent de commettre ce genre d'actes ont été proposées.
Selon un sondage 2021 du Centre de recherche Pew, la moitié des Américains considèrent la violence armée comme un très gros problème et un grand nombre de démocrates et de républicains sont favorables à la vérification des antécédents des acheteurs lors des ventes privées et des expositions d'armes à feu.
Le déroulé exact de la tuerie de Valdé au Texas et le rôle de la police dans le drame étaient au centre des questions jeudi. Certains témoins à l'extérieur de l'école dénoncent la passivité des forces de l'ordre qui avaient indiqué mercredi avoir tenté d'empêcher Salvador Ramos, le tireur âgé de 18 ans, d'entrer dans l'école. Le directeur du département de la sécurité publique du Texas a déclaré à CNN, la chaîne d'information américaine, que Salvador Ramos est resté à l'intérieur de l'école pendant environ 40 minutes avant que la police ne réussisse à l'abattre. La tragédie a assommé de douleur Uvalde, ville de 16 000 habitants à mi-chemin entre San Antonio et la frontière mexicaine est à majorité hispanique. D'autres nouvelles du monde, le président français Emmanuel Macron a appelé jeudi son homologue turc Recep Tayyip Erdogan à respecter le choix souverain de la Finlande et de la Suède d'entrer dans l'OTAN et souhaiter qu'une solution soit rapidement trouvée pour lever le veto turc. Monsieur Macron a souligné l'importance de respecter le choix souverain de ces deux pays résultant d'un processus démocratique et intervenant en réaction à l'évolution de leur environnement de sécurité, a indiqué l'Élysée à l'issue de l'entretien téléphonique. L'Occident doit s'assurer que le président russe Vladimir Poutine perde la guerre en Ukraine et continuer à soutenir Kiev sans faiblir, a déclaré jeudi la chef de la diplomatie britannique. Il ne faut offrir aucun compromis ou apaisement à Poutine, a déclaré Liz Truss à Sarajevo, où elle a rencontré son homologue bosnienne. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Michel, Claire, Joseph, Lionel, Lunamina Gahima et Joselle Morissin. À la présentation, Eric Manerakiza, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, continuez à